Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes le 20 décembre 2023 et depuis trois semaines, chaque mercredi après-midi, ce sont des étudiants et des étudiantes de l'UTC qui sont à l'antenne dans le cadre de la matière WE01. Alors c'est une matière qui étudie le fonctionnement du numérique et du web, qui s'interroge sur les conséquences éthiques du déploiement explosif du numérique autour de nous. Il est partout, dans nos poches, dans nos villes, dans nos instances gouvernementale, et cette explosion des outils numériques pose évidemment des questions sociales, environnementales, éthiques et tant d'autres. Pendant tout le semestre, les étudiants et les étudiantes ont travaillé sur une problématique d'actualité en rapport avec le numérique et vous restituent dans cette émission le résultat de leur enquête. Je m'appelle Quentin et je suis accompagné pour cette émission d'Eliott, Maëlys et Noam. Bonjour à vous.
Salut.
Bonjour.
Alors, c'est la dernière émission du semestre. Votre sujet portait sur le permacomputing, un concept émergent qui fait référence au principe de la permaculture appliqué au numérique. Alors, c'est peut paraître très flou, mais vous nous éclairez sur ce thème. Et à travers l'étude de ce concept, la question à laquelle vous tentez de répondre était la suivante. Est-il possible de construire et partager un web convivial et soutenable? En effet, toutes les autres émissions de radio l'ont montré, la trajectoire numérique actuelle n'est pas soutenable. Et du coup, est-ce que le permacomputing se présente comme un modèle alternatif adéquat? Pour y répondre, vous avez choisi une approche originale en mettant en scène une émission de radio fictive. Alors, chers auditeurs et auditrices de Graphite, c'est un peu méta car vous vous apprêtez à écouter une émission à l'intérieur d'une émission en 2053.
Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Graphite, nous sommes le 20 décembre 2053, il est 17h50, c'est l'heure du contrôle technique. Partons à l'aventure dans un monde que l'on connaît trop bien, dans un monde que l'on ne regarde plus. C'est l'histoire d'une révolution avortée, d'un mouvement et de sa désillusion. C'est l'histoire d'une révolte oubliée, d'un cri sans écho. C'est l'histoire du permacomputing. Et pour raviver son souvenir, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Noam Lefebvre, historien des techniques. Bonjour Noam.
Bonjour.
Vous venez tout juste de publier votre ouvrage « Du permacomputing au soulèvement du numérique, histoire de l'échec d'un courant technophile et technocritique ». Nous avons aussi la chance d'accueillir parmi nous aujourd'hui un des fondateurs du concept de permacomputing, militant de longue date. Bonjour Monsieur Eliott Deschamps.
Bonjour.
Et je vous propose donc de commencer ce programme avec une définition. Monsieur Lefebvre, comment expliqueriez-vous ce concept de permacomputing à nos auditeurs? Comment comprenez-vous cette permaculture du numérique?
Bon, je donne évidemment une définition dans mon livre, mais peut-être que le mieux pour nos auditeurs, c'est de se référer finalement aux premiers écrits qui parlent explicitement de permacomputing. Pour ça, je parle de Mansou, Barok, Howell et Elkila, qui sont des artistes-chercheurs, qui nous disent que, en tant que projet utopique à long terme, le permacomputing vise à donner aux ordinateurs une place significative et durable dans une civilisation humaine qui a une place significative et durable dans la biosphère planétaire. C'est un peu flou, c'est assez large, mais finalement, on voit qu'il y avait une idée de changer le monde, de changer de paradigme, et peut-être pour ajouter un peu des précisions par rapport à cette définition, il y avait très tôt le concept de communauté, un peu tout comme les chatons qui préexistaient, des collectifs d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. En fait, on cherche la bonne taille pour développer le numérique. Et pour ceux qui s'intéressent à ce genre de travaux, les auditeurs pourront s'intéresser à Léopold de Cor. Il y a aussi une volonté artistique, mais je suis sûr que M. Deschamps en parlera mieux que moi. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que le permacomputing pensait qu'il y avait besoin d'une révolution poétique, en tout cas dans notre société. On pourra aussi parler de réappropriation, qui participent à un mouvement plus large. On peut parler des low-tech, on peut parler du numérique, des numériques situés, définis par Nicolas Nova, dans l'idée de finalement comprendre vraiment mieux le numérique, comprendre, essayer d'enlever toutes ces couches d'abstraction qui étaient présentes et qui sont toujours présentes dans notre société. Et bien sûr, peut-être, c'est bien de comprendre dans quel contexte on était à l'époque où ça émerge, pourquoi on tente de nouvelles manières de faire le numérique. Bah parce qu'en fait, il y a une insoutenabilité criante du numérique. Je pense à un travail de Fabrice Flippo qu'il avait déjà très, très bien montré à l'époque. On a une non-appropriation des usagers par rapport à ces outils. En tout cas, on sait les utiliser, mais on a du mal à comprendre comment ils marchent. On peut aussi parler d'utiliser des IA, on a le concept de smart city, de capitalisme surveillance qui apparaît, et donc face à ça, qui émergent des craintes et donc de nouvelles manières de faire du numérique.
Merci Monsieur Lefebvre pour cette définition étayée. Et vous, Monsieur Deschamps, quelle compréhension peut-être plus viscérale, plus incarnée avez-vous de ce concept ?
Oui, c'est vrai que pour moi, le permaculturing, c'est avant tout un mode de vie. Hein. C'est moins une définition académique, comme a pu le faire mon camarade Monsieur Lefebvre. Hein. Pour moi, avant tout, le permaculturing, c'est une recherche, une quête de liberté, d'autonomie, de faire différemment, d'arrêter de consommer toujours plus de ressources. Hein. Je me rappelle, dans les années 20, il y a vraiment cette volonté que j'avais de retrouver un peu ce sens un peu du bricolage, de refaire de mes mains moi-même, de recomprendre comment fonctionnaient ces appareils qui étaient déjà à l'époque hein, très très high-tech. Et voilà, il s'agissait de plus être passif, mais de jouer avec les contraintes, de refaire du beau à partir de ressources numériques limitées, retrouver un contrôle et retrouver avant tout voilà, ce sens manuel, refaire un peu une forme de petit bricolage.
Mais si je comprends bien ce que vous dites, on en fait encore du permacomputing. Je pense à mon téléphone, je sais le réparer. Mon téléphone, j'ai les connaissances pour le faire en autonomie. Si ma batterie s'essouffle, j'en commande une nouvelle sur Apple Store et je la change moi-même. Je sais changer mon écran, je sais changer mon processeur. À l'époque, si vous vous souvenez bien, on rachetait un nouveau téléphone quand celui-ci venait à dépérir.
Je ne suis pas d'accord, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est pas ça le permacomputing. Voilà, c'est vrai que aujourd'hui, on a tellement simplifié nos appareils technologiques que un téléphone c'est 4 pièces que les entreprises vous font fabriquer, enfin vous font du coup assembler vous-même, mais ça un enfant de 4 ans peut le faire. C'est ces 4 pièces de puzzle et voilà. Bon, évidemment qu'en 2020, dans les années 2020 quand le concept a émergé, on avait déjà perdu ce sentiment de compréhension des pièces. Mais quand vous, madame, vous amusez un peu à fabriquer, soi-disant, votre téléphone, vous ne comprenez pas ce qui se passe au sein de l'écran ou au sein de la carte mère. On a simplifié à outrance des composants qui sont devenus de véritables boîtes noires. Et ça, c'est pas du permacomputing, c'était pas cette volonté-là.
Oui, je rejoins plutôt Monsieur Deschamps, mais je trouve en tout cas la remarque de Maëlys assez intéressante. En fait, ça nous prouve quelque chose. Ça nous prouve que oui, aujourd'hui, notre trajectoire numérique est plus proche du permacomputing qu'il y a 30 ans. Pour autant, je pense que le permacomputing est mort. Et c'est même en fait l'éternelle histoire des contre-cultures. Alors que le permacomputing commençait à faire un pied de nez à notre modèle numérique insoutenable, bah en fait, la société occidentale a su récupérer ce qu'il y avait d'attrayant, ce qu'il y avait de vendeur pour capitaliser dessus. Et ça, c'est de longue date que c'est connu. Hein. C'est notamment Schiapello et Boltanski qui avaient parlé de ça dans le Nouvel Esprit du Capitalisme. Donc, ce sont des mécanismes assez connus et qui sont malheureusement arrivés au permacomputing.
Vous parlez de l'éternelle histoire des contre-cultures. Je me permets juste de donner un autre exemple peut-être plus parlant. Pour que nos auditeurs puissent pleinement saisir ce concept, ce qui me paraît central ici. Je pense ainsi au canonique mouvement hippie des années 1960, à ses revendications anticonsuméristes, à son pacifisme, à son style vestimentaire, je pense à sa musique gratuite et à ses amours libres. La société de consommation, qui était tant décriée par ces hippies, s'est allègrement accommodée ces concepts pour en faire une mode. Les produits inspirés des hippies, c'était vendeur. Et il en va de même pour le permacomputing, c'était vendeur. Alors voilà, il me semble intéressant de vous demander comment le permacomputing s'est-il fait absorber, comment sa critique subversive a-t-elle été matée. Pourquoi vous êtes-vous laissé faire, Monsieur Deschamps ?
Alors, bon, c'est pas laissé faire, on s'est battu, mais on a péché. Je pense qu'on a commis des erreurs assez graves. Tout d'abord, on est resté qu'entre privilégiés, voilà, on l'a dit, hein, c'était un mouvement à la fois académique, artistique, mais qui était grandement animé par soit des universitaires, soit des ingénieurs, soit des gens qui avaient suffisamment de temps à consacrer pour comprendre comment fonctionnait le numérique, pour s'amuser avec ces technologies qui étaient déjà, on l'a déjà dit, très high-tech. Hein. Et donc, on n'a pas su ouvrir ce mouvement au reste de la société. On n'a pas réussi à en faire un mouvement populaire. On est resté entre nous. Et donc, je pense que là, on a péché. Après, bon, ce n'est pas uniquement de notre faute. Hein. Je tiens à rappeler la répression qu'on a subie en tant que militants, hein. Notamment cette loi recycle numérique de 2033 dont On l'a oublié, oui, ça fait 20 ans, mais elle a changé beaucoup, beaucoup de choses pour nous. Elle nous a ôté notre outil de travail, hein, pour ceux qui ne se souviennent pas. Avant 2033, avant cette loi, on avait le droit de posséder des produits usagés, des produits numériques usagés. Ça pouvait être des composants d'ordinateur, ça pouvait être des vieilles batteries de téléphone. C'était tout à fait normal. Et voilà, l'État nous l'a interdit sous prétexte qu'il fallait permettre un meilleur recyclage de toutes les pièces, sous prétexte qu'il fallait arrêter d'extraire des minerais, hein, ce qui est sont des critères assez justes, mais en fait on sait très bien que ce sont les différents acteurs des GAFAM et les acteurs du numérique qui ont tout fait pour que cette loi passe, afin qu'ils récupèrent la matière première qui leur échappait en fait, et qui faisait baisser leur vente. Donc voilà, tous les composants ont été standardisés et toutes les ressources ont été captées par les acteurs privés, et c'est ça aussi qui nous a empêchés de nous battre.
Oui, et puis j'aimerais ajouter, hein, tout à l'heure je parlais de la récupération de la société capitaliste. J'aimerais donner un exemple, hein, je pense qu'il parlera à tout le monde, et j'aimerais bien parler de permacomputing washing, hein. Je prends l'exemple de Totalus, qui, voyant ce mouvement de permacomputing émerger, a proposé pour un modeste tarif de 15 000 euros d'avoir sa propre éolienne avec sa propre antenne réseau pour être connecté mais être autonome. Malheureusement, on le sait très bien ici autour de cette table, c'était pas ça ce que proposait réellement le permacomputing. Donc c'est encore une fois juste un petit exemple de récupération qu'il y a pu avoir.
Votre critique n'est-elle pas un peu dure, monsieur Lefebvre ? Vous ne pouvez pas le nier, la trajectoire du numérique devient de plus en plus soutenable. Nous sommes aujourd'hui loin des inquiétudes des années 2020-2030. Et puis, vous n'êtes pas tendre de faire endosser au numérique la responsabilité des injustices sociales, il y en a toujours eu. Dans votre livre, vous l'écrivez même, le numérique n'a jamais autant été un outil d'injustice sociale. N'exagérez-vous pas un peu ?
Déjà, je ferai attention avant de parler de soutenabilité. La semaine dernière, l'ONU le rappelait, nous ne sommes pas sortis de l'effondrement climatique. Mais bon, acceptons d'accorder à notre trajectoire du numérique une certaine soutenabilité. Ça se saurait si la soutenabilité était une fin en soi. Ça se saurait si soutenable voulait dire souhaitable. Ce serait peut-être un premier point que j'aurais à vous accorder. Mais au-delà de ça, ben, comme je l'expliquais, et c'est peut-être avec Totalus, on se rend compte qu'il propose un service à 15 000 euros. La décroissance qu'a eu le numérique qui nous a permis d'avoir une certaine soutenabilité n'a pas été vécue par tout le monde. Les privilégiés ont pu continuer à être ancrés dans le réseau pendant que plein ont juste perdu le wagon.
Monsieur Deschamps, ressentez-vous cette injustice sociale ? Ne vous donne-t-elle pas envie de vous engager dans de nouveaux combats ?
Vous savez, des combats, il y en a beaucoup, hein, mais aujourd'hui, ce qui m'effraie le plus, c'est de voir que les gens ont même plus désir de changement. Alors oui, on l'a dit, le numérique est un peu plus soutenable qu'avant, mais il ne faut pas oublier toutes les injustices sociales qu'il y a, voilà. Alors, voilà, peut-être je vais faire mon historien, monsieur Lefebvre me dira si je me trompe, mais avant, dans les années 20, quand j'ai commencé à me battre, on parlait toujours de PIB. Il s'agissait de faire croître ce PIB. Alors, fort heureusement, on a abandonné cette notion pour le remplacer par ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, le fameux TED, le taux d'énergie disponible, en croyant qu'on a vraiment changé les choses. Mais non, ce taux d'énergie disponible qui vise juste à quantifier les quantités d'énergie produites sur le territoire national n'est rien d'autre que la pâle copie du PIB. Et rien n'a changé. On a toujours, voilà, vous l'avez dit, une classe favorisée qui peut se permettre de faire ce qu'elle veut en saccageant la planète, alors que la masse continue à se battre pour gagner quelques kilowattheures qui lui permettraient de se connecter et de profiter de tous les divertissements offerts sur le grand réseau. Alors oui, c'est triste de voir qu'on est arrivé là alors que les gens sont toujours dans une misère sociale, que certes d'un point de vue carbone on s'est amélioré, mais qu'on continue à détruire le monde avec nos actions qui détruisent la biodiversité notamment et qui polluent les océans. Mais voilà, aujourd'hui, vous savez, je suis fatigué, 30 ans de lutte m'ont abîmé, et voilà, désolé.
Merci pour vos témoignages poignants et votre expertise. Je vous propose de finir notre entretien sur vos mots, monsieur Lefebvre, des mots torturés et peut-être des mots véridiques. Le permacomputing, c'était une tentative avortée de plus. Il n'y aura pas de rupture brutale et transcendante, le changement drastique et fantasmatique. Nous nous enfonçons dans les abîmes de notre aveuglement, tout s'assombrit et nous nous habituons à l'obscurité. Chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre écoute. C'était le permacomputing, une révolution avortée, sur Graphite.
s'est effondré. Il n'y a plus nulle part où aller. Personne n'a été surpris quand le rideau est tombé. Êtes-vous à nouveau sauvage? Êtes-vous à nouveau sauvage? Les bouts de verre et les débris, les déchirures. Ceci, ami, est un heureux naufrage.
Dans un monde parallèle, les choses se sont passées autrement.
Bonjour à tous et à tous. Bienvenue sur Graphite. Nous sommes le 20 décembre 2053. Il est 18h, c'est l'heure du contrôle technique. Partons à l'aventure dans un monde que l'on connaît trop bien, dans un monde que l'on ne regarde plus. C'est l'histoire d'une révolution avortée. C'est l'histoire d'une communauté révoltée, puis d'une révolution générale triomphante et victorieuse. C'est l'histoire d'un mouvement devenu un des fleurons de notre culture. Aujourd'hui, je vous propose de retracer l'histoire de ce permacomputing que l'on connaît si bien. Et pour nous raconter ce palpitant récit, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Noam Lefebvre, historien des techniques. Bonjour Noam.
Bonjour.
Vous venez tout juste de publier votre ouvrage « Du permacomputing au soulèvement du numérique, histoire du triomphe d'un courant technophile et technocritique » aux éditions de l'Échappousse. Nous avons aussi la chance d'accueillir parmi nous aujourd'hui une icône du permacomputing, un militant de longue date, bref politique, souvent à notre antenne. Vous le connaissez bien, c'est monsieur Elliot Deschamps. Bonjour.
Bonjour.
Replongeons-nous donc dans les années 2020. Ces années anxieuses et tourmentées, c'était l'époque où les informations étaient stockées sur le cloud, les années de la révolution ChatGPT, c'était aussi l'avènement des technologies de surveillance de masse. Monsieur Lefebvre, pourriez-vous nous dépeindre ce contexte dans lequel le permacomputing a fleuri ?
Exactement, je pense que c'est important de reparler de cette époque qu'on oublie peut-être un peu trop vite pour comprendre pourquoi on a de nouvelles manières de faire, notamment du numérique, qui émergent. Tout d'abord, ça peut paraître un peu fou pour nous, mais il y avait une croyance en l'immatérialité du web. On croyait à l'époque, en fait, que, ben oui, ça ne, d'un point de vue écologique, c'était léger, que ça ne coûtait rien. Et l'exemple canonique de ça, c'est peut-être qu'on parlait de cloud, pour parler de l'endroit où on stockait la donnée. Ensuite, c'est aussi, on a les GAFAM qui règnent, donc les GAFAM qui sont Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. C'est des entreprises qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais à l'époque où elles règnent, en tout cas, c'est l'ère de l'ultra-centralisation. C'est assez important de comprendre ça, hein, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, les outils numériques sont de réelles boîtes noires pour les utilisateurs, hein. Et on a encore l'arrivée, je crois que c'était en 2022, de ChatGPT qui renforce cette impression. Et il y a des études qui sortent que plus d'un Français sur deux à l'époque a peur pour son emploi. Donc on a un peu ce climat-là, mais avec de la défiance qui monte, des doutes, hein. On se demande est-ce que finalement le numérique est vraiment un ami ou un ennemi d'un point de vue écologique. Et c'est comme ça, finalement, que va apparaître de nouvelles manières de faire. Et on parle de permacopédie qui va chercher, par exemple, à faire apparaître la matérialité du web dans le graphisme, travailler sous contrainte pour faire apparaître, pour faire apparaître ce côté matériel et le rendre même presque désirable. On va y chercher à utiliser un minimum d'énergie et de composants, en ayant compris leur préciosité. Aussi, il y a ce concept de communauté qui va permettre une redécentralisation qui est du coup à l'opposé de ce qu'il y avait avant avec les GAFAM. Oui, aujourd'hui, on a tous notre fabricant d'outils numériques dans notre rue, hein, un peu comme notre boulanger, mais à l'époque, quand on a un problème d'ordinateur, si on est sous garantie, c'est peut-être à l'autre bout du continent qu'on peut se faire réparer son ordinateur. Hein. Ça nous paraît fou, mais c'était comme ça à l'époque. Et donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on cherche à faire une nouvelle manière et qu'on va voir que ça va pouvoir émerger.
Merci, monsieur Lefebvre. Et vous, monsieur Deschamps, vous qui êtes un témoignage vivant, comment avez-vous été amené à vous intéresser au permacomputing que peu connaissaient à l'époque ? Comment vous êtes-vous immiscé dans ces communautés émergentes ?
Oui, alors moi, mon rapport avec ces mouvements révolutionnaires, il est très ancien. Ça fait 30 ans, voilà, j'étais en école d'ingénieur et j'ai dû faire un petit travail sur cette notion. Après, je suis parti travailler de recherche à la rencontre de ces acteurs. Il faut savoir qu'à l'époque, ça peut nous paraître fou, mais c'est une toute petite communauté. Il y a quelques dizaines de personnes, surtout en Europe, qui se déclarent comme des artisans du permacomputing. Et en fait, voilà, il faut bien que nos auditeurs se remettent dans ce contexte des années 20. On est vraiment dans un contexte où la jeunesse est frappée d'une certaine éco-anxiété. Donc l'éco-anxiété, c'était l'idée de dire qu'il y avait des grandes préoccupations socio-environnementales sur le fait que nos sociétés polluaient toujours plus, consommaient toujours plus de ressources, et que surtout les États et les acteurs économiques ne changeaient rien. Il y avait une véritable inaction. Alors on avait ce qu'on appelait des COP à l'époque qui s'enchaînaient année après année. On faisait des très grande promesse et rien ne se passait, on émettait toujours plus, on détruisait toujours plus la planète. Et donc c'est vraiment moi ce qui me marque, hein, ce qui m'a marqué dans les années 20, c'est qu'il y a cette peur et cette volonté de réapprendre, d'agir par nous-mêmes et d'arrêter de simplement faire les petits gestes, mais de faire plus, hein. Donc moi quand je pars à la rencontre de ces différents acteurs, je découvre une pluralité, une grande richesse, hein. Ça va de l'ingénieur qui cherche réellement à comprendre ce qu'il fait, qui bidouille dans son garage, à des petites communautés qui travaillent des semaines durant en étant hors ligne dans une sorte de grand hyper café, mais qui serait totalement perdu dans la campagne. Dans le même temps, dans les villes, ça bouge aussi, hein. C'est aussi l'émergence des hyper cafés du numérique, avec cette volonté de réapprendre, de se réapproprier ces outils, d'arrêter de consommer toujours plus, alors même que c'est fou, à l'époque on avait vraiment chacun dans nos étagères des dizaines et des dizaines d'appareils électroniques complètement laissé à l'abandon, mais qui pouvait très bien être réutilisé. Donc voilà, on voit vraiment, pour moi, je le vis comme l'émergence d'une contre-culture qui vise à redévelopper, non pas une culture du numérique où on fait moins, mais où on fait différemment. C'est vraiment un renouveau à la fois artistique et culturel. Et voilà, c'est pour moi un autre mode de vie.
Vous parlez de contre-culture. Il y en a toujours eu plein qui toujours ont été phagocytés par le système consumériste. Pourquoi le permacomputing s'est-il imposé ? Pourquoi lui ?
Attention tout de même, hein, ne faisons pas une mauvaise lecture de l'histoire technique. Ce n'est pas le permacomputing qui à lui seul s'est imposé. C'est plutôt finalement un système socio-technique qui a permis son émergence. En fait, c'est parce que notre trajectoire technique de l'époque, qui est toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus de numérique, elle s'essouffle, elle s'étouffe, et c'est que comme ça, finalement, c'est que en comprenant pourquoi ça s'effondre de ce côté-là qu'on peut comprendre pourquoi le permacomputing peut prendre une certaine place dans nos sociétés. C'était juste pour préciser, hein, pour bien que nos auditeurs comprennent.
Oui, après, si on veut donner un peu plus d'exemples à nos auditeurs, hein, pour moi, et de manière très modeste, hein, c'est pas parce qu'on a réussi aujourd'hui qu'il faut pas vanner. Voilà, pour moi, deux choses essentielles à retenir, c'est que on a eu cette volonté, contrairement aux autres contre-cultures, peut-être, de rendre populaire cette contre-culture, de la sortir des carcans académiques et militants dans lesquels elle était née, hein, parce qu'il ne faut pas se le cacher, hein, elle n'émerge pas dans les classes populaires défavorisées ou qui étaient apolitisées, elle émerge dans un certain contexte. Mais voilà, on avait vraiment cette envie de populariser, de permettre l'émergence d'une véritable communauté de savoir partagée en libre accès. On n'est pas resté dans notre coin, on a cherché à faire du lien avec l'ensemble de la société à travers différents événements, actions sur lesquels on reviendra peut-être. Donc ça, c'était un peu le premier volet. Le deuxième volet, c'était vraiment cette volonté d'entrer dans un rapport conflictuel. Il ne s'agissait pas de déclarer la guerre à tout le monde, non, mais juste de reconnaître que le temps des marches pour le climat et des actions qui n'effrayaient personne, entre guillemets, était révolu. Voilà. On a voulu passer un stade pour montrer qu'on n'allait plus se laisser faire.
Vous parlez donc de trajectoires techniques qui s'essoufflent, étouffent. Et vous parlez également de communautés engagées en lutte. N'y a-t-il pas justement ces grandes dates, des événements exceptionnels et bouleversants que l'histoire a retenus ? Comment la révolte est-elle venue ? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ?
Une nouvelle fois, il n'y a pas de grande date dans l'histoire. On ne peut pas dire que tel événement nous a fait basculer d'un paradigme technique à l'autre. D'ailleurs, on ne se rend jamais compte du passage du paradigme quand on est en plein dedans. Cependant, c'est vrai que c'est un travail que j'ai essayé de faire dans mon livre, de comprendre les grandes causes, de comprendre les grands mouvements qui ont permis l'émergence. Et on peut peut-être parler, par exemple, de la sécheresse de 2033. Je pense que tous nos auditeurs qui ont plus de 20 ans s'en souviennent. C'est 8 à 11 mois où dans l'Europe et l'Amérique du Nord, on est touché par une énorme sécheresse. Alors, bien sûr, forcément, alors que de nombreuses personnes insistaient sur le fait qu'il y avait de gros enjeux autour de l'eau, on ne les a pas assez anticipés, et d'ailleurs, même, on se disait qu'on en aurait toujours, et c'est assez rigolo, parce que 3 ans avant, il y a le gouvernement de Darlulus qui met une loi, qui place les data centers au même niveau de priorité à l'eau que les hôpitaux. À l'époque, ça choque personne, hein, même personne n'en parle réellement. Mais en fait, alors que les citoyens commencent à subir de plus en plus les effets de la sécheresse, il y a notamment, je pense, une communauté dans laquelle vous devez faire partie, qui va alerter sur ce problème-là, qui va alerter sur « attendez, c'est pas normal, nous, on est en train de se priver, et là, on parle au bout de 4-5 mois, quand les restrictions commencent à devenir sévères pour les personnes, hein, et on est encore en train de faire quelque chose qui est peut-être pas si essentiel que ça, les data centers. Est-ce qu'on a autant besoin de numérique ? En réalité, oui, hein, tout notre système reposait dessus, mais en tout cas, on commence à questionner ça, c'est intéressant. On a d'abord des choses assez pacifistes, hein, comme le mouvement, les hashtags, je veux dire, sur les réseaux sociaux, hashtag eau pour touche, hashtag data center pas avant nous, qui deviennent virales sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi, c'est assez intéressant, des actions plus radicales qui se produisent également. Je pense au soulèvement du numérique qui vont faire du détournement de l'eau, hein, mais j'en parlerai certainement pas mieux que le militant à côté de moi.
Oui, bien sûr, merci de me laisser la parole. C'est vrai que, comme vous l'avez très bien rappelé, on était dans un contexte vraiment horrible, avec des centaines d'habitations qui étaient vraiment privées d'eau, qui étaient aidées par l'armée pour subvenir à leurs besoins. Et à côté de ça, vous aviez des data centers qui consommaient des quantités phénoménales d'eau et qui continuaient à tourner. C'était assez inquiétant. Et donc, du coup, avec les camarades des soulèvements du numérique, nous avons décidé de passer à l'action, donc en détournant une partie de l'eau qui allait vers les data centers pour réapprovisionner les différents habitants. Et donc, C'était vraiment une action coup de poing qu'on a effectuée sur l'ensemble du territoire français pour permettre aux habitants de pouvoir à nouveau être alimentés en eau. Et c'est là aussi vraiment où on a senti qu'on tissait un lien avec la population. Parce que bon, évidemment, déjà on leur a apporté de l'eau qu'ils n'avaient plus, ce qui était déjà un bon premier pas. Donc on a pu sensibiliser des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par ça, mais qui se rendaient compte que le monde était de plus en plus absurde. Et en plus de ça, les data centers étant coupés, on a dû en mettre en place des systèmes beaucoup plus locaux pour leur permettre de garder une forme de connexion au réseau Internet. Et donc ça a aussi permis une forme de réappropriation des techniques. Hein. Une fois qu'on leur mettait le système, ils devaient s'en occuper eux-mêmes, et il y avait une forme de réappropriation qui se jouait là. Donc je pense que c'est un événement marquant.
Merci pour cette anecdote palpitante. La sécheresse, tout le monde s'en souvient. Un autre événement moins connu que M. Lefebvre vous racontait dans votre ouvrage, c'est l'affaire Snowden. En 2013, un ancien agent de la CIA et consultant à la NSA, Edward Snowden, divulgue à la presse les capacités d'espionnage d'Internet développées par les États-Unis et le Royaume-Uni. Surveillance d'Internet, des téléphones portables et de tous les moyens de télécommunication mondiaux. L'alerte est lancée. Selon vous, cette affaire n'a pas fait assez de bruit, du moins elle n'a pas eu la réponse coup de poing qu'elle méritait. En 2029, c'est la révélation du projet Éveil. Ce scandale, bien que similaire à l'affaire Snowden, a-t-il eu une réponse différente ?
Oui, effectivement, j'ai peut-être d'abord commencé par rappeler ce qu'est le projet Éveil, en quoi il est si similaire à ce qu'on vient de décrire pour Snowden. On a cette entreprise de renom, Eurotech Dynamics, qui travaille secrètement sur un projet d'IA appelé Projet Éveil. Et encore une fois, c'est un informaticien qui travaille au sein de cette entreprise qui va se rendre compte que la société dans laquelle il travaille est en train de développer une IA sophistiquée pour prédire et influencer le comportement des citoyens. Et bien sûr, malheureusement, ces prédictions sont utilisées pour influencer les choix politiques, les décisions d'achat et même les relations personnelles. Ça va finalement assez loin. Et du coup, cet informaticien décide de récupérer assez de preuves tangibles et de presque balancer ça en fait aux médias. Et là, pour le coup, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on va avoir une réponse totalement différente. Alors on a peut-être, encore une fois, c'est peut-être parce qu'il y avait déjà un climat ambiant qui se retrouvait moins dans ce numérique-là déjà. Hein. Et en tout cas, du coup, on a, je pense, aux pchatons. Donc c'est Permacomputing qui sont des collectifs d'hébergeurs alternatifs, transparents, neutres et solidaires qui prônent du coup la décentralisation et la transparence, qui gagnent en popularité comme un refuge numérique face finalement à ces data centers qui nous privent d'eau, face à ces IA qui sont en train de prédire tous nos comportements. On a ces méthodes alternatives qui promeuvent du coup le permacomputing, qui émergent et qui sont de plus en plus utilisées par les utilisateurs. Alors bien sûr, c'est pas à ce moment-là que tout le monde s'est réfugié vers les pchatons, mais en tout cas, c'est intéressant que tout le monde avait au moins un avis sur la question des données.
Oui, peut-être également pour compléter, voilà, il y a ce grand scandale qui a été un déclic. Un autre scandale, je pense, c'est le scandale Ecosius. Hein. On se souvient tous de ce navigateur qui était le plus utilisé au tournant des années 30, hein, parce que voilà, il avait été racheté par un grand complexe Google, Meta, de géants du numérique, hein, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Et donc voilà, ce navigateur était très très célèbre parce que il avait ce petit côté écolo. Hein. Il s'engageait en plantant des arbres, mais il avait également développé plein d'autres activités. Il avait développé des jardins potagers, lancé une chaîne alimentaire 100% bio, 100% local. En fait, l'idée c'était de dire que quand vous naviguez sur le web, et vous contribuez avec les données qui étaient récoltées à financer des projets écolo. Donc c'était vraiment perçu comme un symbole de l'engagement écologique dans le monde numérique. Voilà, c'était affiché depuis en bas de la page, 4 décennies de lutte pour le climat. Il y avait vraiment une entreprise très très connue à l'époque. Hein. On l'a vraiment oublié, hein, vous comprendrez pourquoi. Mais était connue pour son navigateur axé sur la durabilité, qui promettait une très bonne expérience de navigation, tout en étant responsable d'un impact positif. Donc c'était gagnant-gagnant. C'était vraiment la quintessence de ce qu'on appelait la croissance verte. Voilà, on croyait encore à l'époque qu'on pouvait croître de manière infinie dans un monde fini. Mais voilà, bref, ce sont des croyances passées maintenant. Mais voilà, donc ce scandale, il symbolise vraiment la manière dont les idéaux initiaux de durabilité pouvaient être détournés au profit de la croissance économique. Parce que voilà, le scandale, ce qui s'est passé, c'est que leur fameuse promesse de développer des jardins potagers avec les richesses gagnées sur les navigations des usagers, en fait, se sont révélées être de faux jardins potagers. C'était des pratiques agricoles intensives cachées qui épuisaient les sols, qui provoquaient des dégâts écologiques, que ce soit en termes de biodiversité ou d'empreinte carbone à grande échelle. Et voilà, leur fameuse chaîne alimentaire bio et locale se révélait être une façade trompeuse, avec des sources d'approvisionnement lointaines et des méthodes de production industrialisées. Et ça, c'était vraiment un scandale de plus qui a provoqué une forme de prise de conscience dans la population. Ils se sont rendus compte que, encore une fois, ils s'étaient fait berner par les géants du capitalisme ultra-industriel. Il y a eu de nombreuses manifestations, il y a eu encore cette volonté encore plus de se tourner vers les chatons du numérique, et également aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, de se tourner vers des pratiques alimentaires durables, hein, parce que là, voilà, on avait vraiment l'impression que ce qu'on mangeait était bon dans notre assiette, vu que voilà, ils avaient toutes les parts du marché, mais encore une fois, on s'était fait tromper, et là, c'est vraiment là où il y a une autre prise de conscience qui s'est faite.
Merci pour ces histoires aussi révoltantes que fascinantes, ces histoires qui sont les nôtres. Nous n'avons malheureusement pas le temps d'aborder l'ensemble des changements ayant accompagné l'émergence du permacomputing. Vous connaissez tous et toutes l'évidence qu'a été l'exode rural, l'autonomisation du pouvoir à l'échelle biorégionale et la restitution de la gouvernance technique, et notamment de la gouvernance du numérique. Chaque biorégion peut maintenant choisir et moduler ses réseaux, chez nous le débit et la 2G, alors que nos amis canets ont opté pour la 3G et les geeks strasbourgeois sont récemment passés à la 8G+. Tout ceci est le fruit de délibérations biorégionales, de choix réalisés en communauté sur les secteurs à développer ou non, sur les ressources à prioriser ou non. Ces différentes régionales ne sauraient nous faire oublier les progrès généralisés que nous avons connus partout, dans la soutenabilité et la justice sociale, avec le développement d'un réseau national de repères cafés et le renouveau des pratiques associatives ou encore l'explosion des chatons numériques. Rappelons-nous qu'il n'y a rien d'évident à avoir un ordinateur communal d'une durée de vie narguant la cinquantaine d'années, dont tous les composants peuvent être échangés, réparés, et ce, par nos soins. Alors certes, vous avez connu et connaissez bien et toujours les ruptures d'approvisionnement, les coupures récurrentes et l'augmentation du coût du numérique, signe qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Et nous voilà déjà de retour en 2053. Merci à vous pour cette relecture de notre histoire, de ces retournements de situation inespérés. Merci pour cette réminiscence de ces dernières décennies chaotiques. Ne les oublions pas. Je vous invite encore une fois à lire cet ouvrage de Monsieur Lefebvre, un ouvrage qui exulte un progrès social conscient et pétri d'une remise en question perpétuelle axée sur le numérique. Nous conclurons donc cette émission sur vos mots, Monsieur Lefebvre. Il reste encore beaucoup à faire, certains problèmes persistent, d'autres émergent. La perfection nous échappe encore, puissions-nous un jour l'atteindre? Soyons fiers, restons humbles et questionnons-nous toujours. Chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre écoute. C'était le permacomputing, une révolution victorieuse sur Graphite.
Merci beaucoup Noam, Elliot et Maëlys pour ces deux émissions dans deux trajectoires différentes. On a du coup quand même quelques questions, ça ne doit pas être facile de poser des questions sur ce format-là. Raphaël demande, par rapport à votre second récit au niveau des navigateurs écologiques, donc l'une des références aujourd'hui écologiques est Ecosia, qui promet la plantation d'arbres en fonction du nombre de recherches. Est-ce que, comme dans votre récit, c'est une forme de greenwashing visant à se donner bonne conscience? Est-ce que c'est un vrai projet à but écologique? Et peut-être je rajouterais aussi, quelle que soit la réponse, qu'est-ce que produit en fait Ecosia? Qu'est-ce que favorise Ecosia en matière de système social et technique?
Alors c'est une vaste question. Je crois pas qu'on a encore des données pour dire que Ecosia est une vaste arnaque. Je pense pas que, sinon ça, peut-être on le saurait déjà, mais peut-être qu'on doit rappeler que la moitié des arbres qui ont été plantés pour des politiques de compensation carbone n'ont pas réussi à pousser ou sont juste déjà morts. Donc je pense que la politique d'Ecosia qui consiste à dire que en récoltant de l'argent et en plantant des arbres, on pourrait avoir un impact positif sur le monde, elle est peut-être légèrement trompeuse. Après, on pourrait dire que c'est déjà mieux que rien, mais il ne faut pas oublier qu'on doit peut-être aussi questionner nos pratiques numériques avant toute chose, qu'on pourrait peut-être essayer de faire moins, mais bon, pour moi, c'est une question relativement annexe quand on voit la place minime qu'a Ecosia actuellement dans le domaine des navigateurs, et à quel point ce n'est pas peut-être aussi une forme d'excuses, dans le sens où ça empêche un peu toute remise en question du système, dans le sens où vous avez cet acteur qui est un peu mieux que les autres, qui n'est pas forcément bon, mais qui est mieux que les autres, et ce serait un peu l'alternative, mais qui est pas réellement, qui est un peu pour moi une fausse alternative, qui nous empêche de penser les grands problèmes.
Ouais, je sais, hein, j'aurais juste résumé en disant que c'est peut-être pas une arnaque en tant que soi, enfin en tout cas moi je sais pas exactement si... Si la plantation d'arbres est bien faite, si ça résiste bien, on peut avoir quelques doutes dessus, mais il y a surtout une arnaque psychologique du fait que, en fait, ça focus beaucoup sur les petits gestes, alors il faudrait peut-être se concentrer sur les grands combats, et du coup, en soi, ça peut être un peu une arnaque au niveau de l'impact positif qu'on pense pouvoir avoir sur le numérique. Surtout, encore une fois, que on pourrait questionner effectivement le numérique de manière plus large, et se dire « Oh, mais c'est bon, j'utilise Ecosus, c'est OK », bah, c'est pas forcément OK, mais après, il ne faut pas non plus remettre toute la faute sur les individus, mais justement... Mais voilà.
En tout cas, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que Ecosia repose sur le système de la publicité, que ce soit de la publicité ou non, mais du coup est dépendant de tout un système beaucoup plus complexe d'acteurs, comme on a pu le voir, d'annonceurs, du coup d'un système qui encourage la consommation de masse, etc. etc. Et donc j'ai l'impression qu'il y a une constante dans les projets qui consiste à dire on va continuer à avoir les mêmes pratiques, mais ça sera plus écologique ou on va les penser, en fait, à ne pas remettre en question le système invisible qui est derrière et du coup à pas provoquer de changements radicaux. Anne-Rose demandait pour Noam, est-ce qu'on peut réellement dire que durant les années 20, la jeunesse souffrait d'une éco-anxiété quand la génération Y était la plus dépendante aux technologies et que presque tous les jeunes possédaient ordinateurs portables, AirPods, téléphones et consoles. Parce que comprendre la question, c'est est-ce que est-ce qu'il n'y a pas une dissonance à dire qu'à la fois les gens sont très éco-anxieux rapport aux enjeux écologiques et en même temps possèdent beaucoup d'appareils électroniques?
Alors, je crois que c'est Elliot qui a parlé d'éco-anxiété, mais encore une fois, si je comprends la question, enfin, en tout cas comme je comprends la question, c'est est-ce qu'on était bien conscients des enjeux écologiques, est-ce qu'on est bien conscients des enjeux écologiques alors qu'on a le numérique qui nous entoure? Alors quand même, une première réponse à ça, c'est comment faire pour ne pas avoir du numérique qui nous entoure quand même? Est-ce que c'est vraiment possible? Il y a plein d'exemples qui nous montrent qu'en tout cas, aujourd'hui, se libérer du numérique, c'est très compliqué. Hein, pour payer, pour confirmer un transfert, un virement, il faut avoir un téléphone. Pour travailler, il faut quasiment, en étant étudiant, il faut avoir un ordinateur. Peu importe où on se balade, il y a du numérique. Donc oui, on peut encore une fois agir à notre échelle. On pourrait même utiliser Ecosia, on pourrait même utiliser un téléphone plus écologique, hein. Je peux donner des Fairphone par exemple, et ça reste intéressant. Hein. Pour autant, c'est pas là l'enjeu. Je pense pas que c'est parce qu'on a autant d'outils numériques qu'on n'est pas éco-anxieux. En fait, c'est juste qu'on peut pas complètement se séparer du système qui nous entoure, quoi. Juste.
Ouais, c'est ça. Je pense que évidemment que chaque jeune n'est pas à faire des nuits blanches en pensant à l'écologie, mais je pense que ce sont des questions qui nous touchent tous, et n'oublions pas qu'on fait quand même partie d'un système qui pas nous oblige, on n'est pas né avec quelqu'un qui nous menaçait avec un couteau nous disant tu dois avoir un téléphone, tu dois avoir un ordinateur, mais comme tu l'as rappelé Noam, on vit dans un système qui nous insiste fortement si on veut avoir une vie relativement normale on en a. Mais je disais une étude cet après-midi que des chercheurs ont fait en demandant à des populations jeunes combien ils étaient prêts à payer pour garder TikTok, et chaque étude, enfin la moyenne c'était voilà une trentaine de dollars, je crois que ça a été fait avec des étudiants américains. Il y avait une autre question qui était très intéressante qu'ils ont posée à la suite, c'était combien ils étaient prêts à payer pour que tout le monde n'ait plus accès à TikTok. Donc en fait que TikTok disparaisse, et en fait ils se sont rendu compte que la grande majorité des répondants disaient qu'ils étaient prêts à payer une cinquantaine de dollars de leur poche à eux, hein, donc pour que tout le monde arrête d'utiliser ce TikTok, parce qu'en fait ce qui gêne les gens, c'est pas tant de ne plus avoir TikTok, mais c'est de ne plus avoir TikTok alors que les autres ont accès à cette application. Donc c'est le fameux FOMO, hein, la peur de rater quelque chose. Et voilà, je pense qu'on nous a rendu accro à des technologies qui n'étaient pas forcément nécessaires. Enfin, on a toujours nos parents qui nous disent « Ouais, mais nous, on n'a pas grandi avec ça. » Et je pense que voilà, d'un point de vue anthropocentrique, on n'a pas eu besoin de TikTok ou de n'importe quelle application ou d'objet technique électronique pour se développer. Maintenant, c'est dans nos sociétés, donc on doit faire avec, mais... Je pense qu'il faut aussi questionner le système qui nous contraint à, tu veux acheter un ticket de, à la gare SNCF, bah ouais, tu dois avoir ton téléphone, sinon tu fais une queue de 15 minutes pour l'acheter. Ou là, tu vas acheter un produit à Auchan, bah, y a plus de 2 caisses avec des gens dedans, avec des vrais gens, et le reste, tu as 10 caisses automatiques. Et donc voilà, je pense que c'est aussi un système qui crée une dépendance à la numérisation. Il ne faut pas oublier, et je terminerai là-dessus, que dans le cas des supermarchés, c'est, on n'a pas mis les caisses automatiques pour fluidifier simplement le passage à la caisse. On a dû d'abord rendre le travail des caissières et des caissiers beaucoup moins satisfaisant à faire. On a demandé aux caissiers de travailler plus vite, on a demandé aux caissiers de ne pas répondre aux clients, de ne pas parler aux clients. Donc on a d'abord dégradé le travail du caissier pour ensuite généraliser l'usage et le recours à des caisses automatiques, parce que enfin, finalement le contact humain n'avait plus aucun sens. Donc voilà, je pense, remettons en contexte la numérisation de notre société.
Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que c'est un argument très intéressant face à ce qu'on entend souvent, à savoir, bah, au final, les entreprises du numérique, elles ne font que répondre à une demande. Et là, en se rendant compte que finalement, le système produit une quasi-impossibilité, ou en tout cas, il faut être dans une très très forte volonté, soit sacrificienne, soit être dans une communauté qui permet de le faire, mais de se passer de ces outils numériques. Les exemples des billets de train sont très très éloquents. Pour connaître des personnes qui n'ont pas de smartphone, je peux vous dire que leur vie, rien que juste en n'ayant pas de smartphone, hein, mais toujours avec un ordinateur, est sensiblement différente de celles et ceux qui ont un smartphone. Peut-être une dernière question, toujours des questions complexes, hein, sur ces sujets, de Caillot, qui demande, est-ce qu'on peut affirmer que la principale difficulté de l'application du concept de permacomputing réside dans notre système économique, et demande aussi comment pourrions-nous effectuer une transition plus réaliste de la surconsommation actuelle d'électronique vers une approche plus écologique, étant donné que toute modification de notre système économique est pratiquement impossible à mon avis. Donc bon, moi ce que j'entends, c'est une question un peu de stratégie. Est-ce qu'on peut modifier le système économique? Est-ce que c'est de la faute du système économique si on ne peut pas passer au permacomputing? Et si oui, comment on fait? Alors c'est très, très vaste et prospectif, mais si vous avez des billes.
C'est vrai qu'on est, enfin, après on n'est pas du tout expert de ça, mais on a essayé de montrer vite fait qu'effectivement un gros risque des contre-cultures, c'est d'être récupéré quand même. Après, si moi on me demande, après je suis expert de rien, mais si on me demande si effectivement le système économique a à voir, dans tous les cas, peu importe ce qu'on produit, a à voir avec la crise écologique aujourd'hui, j'aurais tendance à dire oui. Donc j'aurais tendance à dire que, est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir sans changer le système économique? Donc ce qui doit vraiment rester immuable, c'est le système économique, et on doit tout bouger autour pour essayer que ça tienne un peu debout. Juste d'abord, j'aurais pris la question en mode, est-ce que la première chose à changer, c'est pas le système économique, justement, pour permettre d'autres choses intéressantes d'émerger, quoi.
Et peut-être pour compléter, moi je pense que si on parle de stratégie, c'est que il faut qu'on arrive à sortir de ce système économique, donc on l'appelle capitalisme, néolibéralisme, c'est pas la sémantique qui compte. Je pense qu'il faut qu'on arrive à en sortir en développant des pratiques, on va dire, anti-économiques. Ça pourrait être basé sur le don, le contre-don, basé sur le bénévolat, basé sur retrouver une forme d'autonomie matériel, donc que ce soit alimentaire, donc juste développer, voilà, dans son jardin, que ce soit des jardins ouvriers, dans sa petite parcelle, si on en a une, retrouver, voilà, une forme d'autonomie alimentaire, donc de plus dépendre économiquement du système actuel. Et ça passe aussi du coup par le développement du permacomputing, développer soi-même ses propres réseaux. Alors oui, on devrait être acteur du système économique pour acheter du matériel, le mettre en place, mais je pense que si on veut réellement échapper à la récupération du système économique, ça passe par essayer de créer des, comme pourrait l'appeler Jérôme Bachet, des espaces libérés, en fait, des espaces libérés du système économique et du monde de l'économie avec un grand E. Donc d'un point de vue stratégique, moi c'est peut-être ça que je vois, c'est de s'autonomiser, en fait, du système actuel.
Peut-être si on se base sur notre deuxième fiction, quand même, le point de vue qu'on a pris pour finalement un monde qui nous correspond plus, en tout cas pour nous trois, c'est que c'est pas seulement effectivement le permacomputing qui a émergé, qui s'est imposé, c'est que en fait ça va. On pense plutôt que le monde tel qu'il est ne peut pas tenir extrêmement longtemps debout. Alors c'est pas que tout va s'effondrer en une seconde, etc., mais qu'il va avoir de plus en plus de faiblesses. Et là où il faut être entre guillemets bon d'un point de vue stratégique, c'est avoir déjà des communautés existantes, des alternatives existantes, pour pouvoir ne pas repartir de zéro, ou pour pas trop subir ce que serait cette décroissance, ou je sais pas comment on aimerait l'appeler, quoi.
Eh ben merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y aura encore énormément à dire. Et puis, de toute façon, c'est des luttes et des questionnements très actuels, y compris ici à l'UTC. Alors, si c'est des problématiques qui vous intéressent et que vous êtes étudiant, étudiante à l'UTC, n'hésitez pas à venir dans des matières comme WE01 ou IS3 qui questionnent un petit peu notre rapport au numérique et les trajectoires possibles. Et puis, si vous êtes compiénois, est-ce que ça vous intéresse et que vous avez envie de savoir ce qui se trame à l'UTC sur ces sujets, peut-être collaborer un peu sur ces questions. Vous pouvez toujours, par exemple, envoyer un petit mail à l'association Picasoft, un chaton compiénois qui promeut une approche plus sobre, décentralisée, plus humaine, anticapitaliste, etc. du numérique. Merci à vous, Elliot, Noam et Maïlis, et à la prochaine. Salut.
Merci.